voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle que nous allons parler ce soir des violences post-électorales au Niger. Place donc à présent à votre invité.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Olivier Kamitapou, bonjour.
Bonjour.
Ancien ministre de Joseph Kabila et directeur de cabinet de Moïse Katumbi du mouvement Ensemble pour le changement en RDC. D'abord, cette précision, hein, votre parti est-il toujours ou non membre de la coalition Lamouka qui avait été constituée dans le cadre de la dernière présidentielle?
Bien entendu, nous sommes toujours membres de Lamouka et d'ailleurs, il faut relever que le nom de Lamouka, s'il y avait un droit d'auteur, c'est bien Moïse Katumbi qui a trouvé le nom de Lamouka et qui a demandé à tous les Congolais de se réveiller. Eh bien, aujourd'hui, Moïse Katumbi n'a pas changé. Il est toujours, eh bien, Lamouka.
Donc, les déclarations de Martin Fayoulou, qui se présente comme chef de ce regroupement et qui affirme que ce regroupement reste dans l'opposition, vous engagent toujours?
Bien, écoutez, vous savez très bien que dans une famille, il peut y avoir des tonalités, des sensibilités différentes. Moïse Katumbi a toujours plaidé en faveur du développement du Congo. Il faut laisser une chance à ce que les Congolais puissent voir une meilleure gouvernance dans ce pays. Donc, nous avons été une opposition à la fois républicaine et constructive. On nous appelle aujourd'hui à participer activement à une reconstruction. Eh bien, nous participerons, mais tout en restant très vigilants.
Donc, on peut aujourd'hui dire que Ensemble pour le changement appartient à la fois à Lamouka, qui se revendique de l'opposition, mais aussi à l'Union sacrée, qui est désormais considérée comme la majorité.
Nous considérons qu'aujourd'hui, nous devons apporter et contribuer au redressement du pays. Notre principal adversaire était la dictature de Joseph Kabila, et cette dictature, nous l'avons terrassée. Lamouka a joué un rôle essentiel à travers l'action parlementaire des députés de Ensemble et du MLC. Maintenant, nous allons concrétiser ce travail en donnant une chance à la paix et au développement du pays. Donc, nous n'avons pas changé notre philosophie, nous n'avons pas changé nos revendications.
Et quelles sont vos revendications aujourd'hui au sein de votre regroupement?
Eh bien, elles sont multiples, mais la première, c'est d'abord de restaurer la paix et la sécurité à travers tout le pays, et particulièrement dans l'Est. Nous voulons également que les réformes ayant entré au processus électoral soient enclenchées le plus rapidement possible pour de bonnes élections crédibles, transparentes, démocratiques en 2023, dans les délais du mandat constitutionnel. Nous souhaitons également un développement à la base pour améliorer les conditions de vie d'une population qui ne cesse aujourd'hui de souffrir de l'extrême pauvreté.
Vous êtes donc d'accord avec la CENCO, la conférence épiscopale, qui suggère qu'au prochain gouvernement, il faut inscrire les réformes électorales et celle de la loi sur le fonctionnement de la CENI comme des priorités?
Bien entendu. Tout à fait d'accord avec la CENCO. Nous partageons exactement ce que la CENCO vient de publier. C'est notre cahier des charges et nous nous associons pleinement à ce qui a été revendiqué par les évêques du Congo. Bien entendu, maintenant que nous sommes dans une union sacrée, nous serons les premiers à exiger que ces réformes soient engagées le plus rapidement possible.
La même CENCO réclame un gouvernement de rupture. Votre parti n'est-il pas, dans ce cas, disqualifié pour faire partie du prochain gouvernement?
Bien, écoutez, notre parti, vous le savez, le socle de ce parti, ce sont des hommes et des femmes qui ont refusé d'aller vers les changements de la Constitution et la prise en otage du peuple congolais.
Vous dites donc, en somme, que vous méritez votre place dans le prochain gouvernement. Moïse Katumbi a été gouverneur nommé par l'ancien président Joseph Kabila. Et vous-même, vous avez été ministre de Joseph Kabila. Est-ce que vous faites vraiment partie de cette rupture?
Écoutez, on ne revendique aucune fonction. Moïse Katumbi n'a jamais revendiqué quelque fonction que ce soit Premier ministre ou quoi. Nous ne revendiquons aucune fonction. Nous demandons simplement à être jugés.
Ce n'est pas ce qu'a dit l'UDPS. Les membres de l'UDPS affirmaient que Moïse Katumbi, à un moment, s'est retiré de l'Union sacrée parce qu'il n'avait pas obtenu le poste
président
de l'Assemblée nationale.
Madame, Moïse Katumbi n'a jamais été demandeur du moindre poste que ce soit. S'il faut juger les gens sur leur responsabilité, leur moralité et leur éthique, eh bien, je peux vous dire que quand Moïse Katumbi a démissionné de ses fonctions, il a eu plus d'une vingtaine d'audits financiers sur sa gestion du Katanga. Tous ceux qui avaient démissionné, ministres, gouverneurs et mandataires, ont tous été contrôlés. Il n'y a jamais eu le moindre reproche à leur gestion.
Le Premier ministre consulte pour la formation du futur gouvernement. Il a rencontré la semaine dernière une délégation de votre regroupement. Que lui avez-vous demandé ?
Nous ne lui avons pas demandé de poste. Le Premier ministre sait très bien le rôle que Moïse Katumbi et que ses parlementaires ont joué pour mettre à bas la dictature. Mais je pense que, toute raison gardée, le Premier ministre connaît le poids politique, l'engagement politique et moral de Moïse Katumbi et de ses hommes dans cette bataille pour renverser la dictature.
Comment qualifieriez-vous l'atmosphère politique dans votre pays ? Apaisée, délétère, calme avant la tempête ?
Écoutez, comme les évêques l'ont dit, l'Union sacrée ne doit pas devenir une auberge espagnole où tout le monde y entre pour essayer d'y trouver chaussures à son pied. Non. Nous prendrons toutes nos responsabilités en temps voulu s'il s'avérait que la classe politique ne répond pas aux aspirations du peuple congolais.
Olivier Kamitatou, merci beaucoup.
Merci à vous.
Directeur de cabinet de Moïse Katumbi du mouvement Ensemble pour le changement en République démocratique du Congo.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et quatre invités en ligne ce soir pour parler des violences post-électorales au Niger. Il s'agit de Idrissa Waziri, porte-parole de Mohamed Bazoum, déclaré vainqueur selon les résultats provisoires de la présidentielle au Niger. Monsieur Waziri, bonsoir. Il n'est pas encore en ligne, Idrissa Waziri, qui donc sera en ligne de Paris. Yacouba Soumaïla, secrétaire général de la diaspora du Modenfa Lumana Africa, est également à Paris. C'est le parti de l'opposant à Mamadou. Monsieur Soumaïla, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Boubé Naïwa. Vous êtes enseignant, chercheur au département de philosophie à l'Université Cheikh Kanta Diop à Dakar, au Sénégal. Vous m'entendez, professeur Namaïwa?
Oui, je vous entends parfaitement. Bonsoir.
Bonsoir, merci à vous d'être avec nous. Et en direct de Bruxelles, Kabirou Oumarou. Bonsoir, monsieur Oumarou.
Bonsoir, madame.
Membre du parti MPN, Mouvement Patriotique Nigérien Kishin Kassa, qui signifie patriote, parti allié de Maman Ousmane. Vous avez été, monsieur Oumarou, candidat aux dernières législatives au Niger. Et on me fait signe que monsieur Waziri est bien en ligne. Monsieur Waziri, bonsoir. Il est reparti, on l'a perdu à nouveau. Nous allons commencer avec vous, monsieur Soumaïla. Les résultats provisoires annoncés par la commission électorale indiquent que M. Bazoum a gagné avec 55,7% des voix face à Maman Ousmane, le candidat du RDR Tchangi, qui a obtenu un peu plus de 44%. Pourquoi est-ce que M. Ousmane conteste ces résultats et affirme que lui, il a remporté ce scrutin avec un peu plus de 50%?
Monsieur Ousmane a parfaitement raison. Monsieur Ousmane a gagné ces élections. Donc, juste pour la petite histoire, madame, je vais vous annoncer que je fais partie de personnes qui ont fait la compilation des résultats du second tour entre Monsieur Ousmane et Monsieur Bazoum Mohamed. Et donc, à l'issue des résultats, des vrais résultats qui sont sortis des urnes, Monsieur Ousmane a gagné ces élections. Donc, je vais être même plus précis par rapport au nombre de voix. Monsieur Ousmane a eu 1 911 000 voix. Quant à Monsieur Bazoum, 1 887 000 voix. Donc, et nous, nous allons demander à M. Ousmane, avant même la proclamation des résultats de ce second tour, que ces résultats sortis des urnes lui donnent la victoire. Donc, il y avait des communes où nous avons assisté à des hold-up, des communes dans lesquelles il n'y a même pas eu des élections. Donc, je peux vous dire qu'à Ottawa précisément, il n'y a pas eu d'élection, car tous nos délégués ont été chassé par les responsables de la CENI locale, ce qui n'était pas le cas à Maradi et à Zinder.
Donc là, pardonnez-moi, vous êtes en train d'accuser la CENI d'être, d'avoir roulé pour le candidat du pouvoir, puisque
c'est
quand
pas
vous...
C'est pas une accusation, madame, c'est des faits. C'est des faits. Donc, nos délégués que nous avons envoyés nous ont remonté qu'ils ont été chassés. Et donc, je vais vous dire, madame, le jour de la proclamation des résultats par la CENI, donc notre représentant nous a indiqué clairement, parce que au niveau de la CENI, quand tu fais la centralisation des résultats par commune, il y a un représentant du candidat Ousmane et un représentant du candidat Bazoum. Et donc, le représentant, il vérifie les données qui nous sont remontées par nos différentes communes qu'il valide avec les résultats qui ont été transmis au niveau de la CENI. Et donc, le jour de la validation des résultats, à notre grande surprise, tous les résultats des communes qui étaient transmis à la CENI, nous l'avons demandé de ne pas valider jusqu'à ce que nous lui confirmions ces résultats que nos délégués nous ont transmis. Et le président de la CENI a indiqué clairement qu'ils ne vont pas attendre à ce qu'ils valident. Donc, ça veut dire que les résultats qui ont été communiqués le mardi matin, aucun de ces résultats-là n'a été validé par le représentant de M. Ousmane.
M. Soumaïla, deux observations. Hein. Vous dites que vous avez fait des compilations. Avez-vous la formation que reçoivent les membres de la commission électorale pour faire ce travail? Et deuxième chose, en matière de chiffres, il y a toujours une marge d'erreur qui n'est pas à exclure.
Mais madame, par rapport à l'expérience, ça fait au moins 7 à 8 élections que je fais ce travail-là. Le premier tour, c'est moi qui ai fait la compilation de ces résultats aussi à l'élection au premier tour à Niamey. Donc au niveau de la compétence, il n'y a aucun doute là-dessus. Et au niveau des chiffres, les chiffres, nous, ce sont les PV qui sont validés, qui sont signés par nos délégués dans les différents bureaux de vote qui nous remontent. Donc c'est par rapport à ces données-là. Donc on ne peut pas se tromper sur ces chiffres-là.
Merci.
Et tous les chiffres que nous avons dans les régions de Tillaberi, Dosso, Niamey, Maradi et Zinder, les chiffres que nous avons, c'est les vrais chiffres là que la CENI a publiés. Malheureusement,
S'il vous plaît, la politesse veut aussi que vous m'écoutiez quand je souhaite vous interrompre parce que nous avons d'autres invités qui doivent aussi s'exprimer. Nous n'avons pas encore M. Waziri que nous essayons de joindre pour le moment. On me fait signe que cette fois c'est bon, il est bien en ligne. M. Idrissa Waziri, bonsoir. Porte-parole de Mohamed Bazoum, déclaré donc vainqueur selon les résultats provisoires de la commission électorale. Je ne sais pas si M. Waziri que je vois à l'écran m'entend. M. Waziri, vous êtes là?
Oui. Je vous entends très bien, merci.
Parfait. Bonsoir, M. Waziri, soyez le bienvenu. Est-ce que vous avez suivi les accusations formulées à l'instant par M. Soumaïla qui dit que M. Ousmane a bel et bien remporté le deuxième tour de la présidentielle par 1 911 000 voix pour et 1 887 000. Malheureusement, on a encore perdu M. Waziri, qui est pourtant en direct de Paris avec nous dans cette émission. Et c'est bien dommage. M. Namaïwa, vous êtes là? Allô?
Oui, je suis là, oui.
Comment interprétez-vous ces chiffres que vient de communiquer M. Namaïwa? C'est vrai que vous n'étiez pas là pendant les compilations, mais... Un peu vu de Dakar, vous n'étiez pas au Niger. Est-ce que d'habitude, on assiste à ce genre de divergence au niveau des chiffres communiqués par les états-majors des partis et la commission électorale?
Excellente question, madame. Toute la question est là. Est-ce que de 1993, où le Niger est entré dans l'ère démocratique, à aujourd'hui, nous avons assisté à ce genre de choses? Nous avons eu, en 1996, les 7 et 8 jours de contestation des résultats qui avaient été des élections qui avaient été organisées par le général Barry sur 2 jours. Il y a eu des contestations, mais en dehors de ça, je ne connais pas une querelle de chiffres au Niger, si ce n'est pas cette fois-ci. Pourquoi cette fois-ci? C'est parce que les choses n'avaient pas été, je le dis, je le répète, les choses n'avaient pas été transparentes. Ensuite, je crois que la Commission électorale nationale indépendante a failli véritablement dans l'organisation de ces scrutins. Parce qu'il y a normalement des mesures qui doivent être prises afin de limiter, je dis bien limiter, au moins la fraude, ce qui n'a pas été le cas. Entre les deux tours, pas mal d'observateurs, en tout cas des Nigériens, ont attiré l'attention de cette commission pour lui dire qu'il y a eu des choses avec des preuves à l'appui, des images, des vidéos, des audios qui attiraient l'attention de cette commission sur un certain nombre de faits qui se sont déroulés dans certaines zones. Au lieu de prendre les dispositions nécessaires, je crois que nous avons reconduit le même processus pour le second tour, ce qui amène justement, excusez-moi le terme, cette situation d'instabilité et de contestation.
Mais voilà, qu'est-ce qui fait problème? C'est le procédé utilisé pour le décompte de voix, la compilation, où effectivement non, il y a madame, une tentative de manipulation des chiffres d'un camp ou de l'autre.
Le verre était déjà dans le fruit, comme je l'ai dit. Autrement dit, déjà au niveau du processus de vote lui-même, il y a des zones dans lesquelles aujourd'hui les Nigériens eux-mêmes, ceux qui sont au pouvoir, eux-mêmes sont conscients qu'il n'y a pas eu vote, mais il y a eu simplement remplissage des procès-verbaux. Nous avons vu des urnes sous des arbres, nous avons vu des urnes dans des courries où ce sont des individus. On n'a pas vu les électeurs, ce sont des individus qui remplissaient les procès-verbaux sans la présence des délégués de l'opposition. Et j'ai entendu des délégués de l'opposition dire, par exemple, qu'ils étaient dans un lieu, dans une circonscription, ils ont attendu au niveau des bureaux de vote qu'on leur a indiqué, jusqu'à aux environs de 18 heures, il ne s'est rien passé. Or, merci. Ça veut dire que ça a été délocalisé.
Merci
Je m'excuse, madame.
Pour terminer, s'il vous plaît. Madame.
Normalement, la CENI a des endroits bien précis où le vote doit se passer. Tel n'a pas été le cas. Il y a des bureaux de vote, entre guillemets, qui ont été délocalisés dans d'autres espaces. Mais je rappelle simplement que vraiment, c'est la première fois au Niger que nous assistons à des drames comme ça où il y a même mort d'homme. Moi, je suis très désolé, je suis navré. Et je ne comprends pas cette situation.
Merci beaucoup. Monsieur Kabirou Oumarou, un commentaire rapide sur ce que viennent de dire les précédents intervenants.
Moi, ce que je voudrais juste appuyer, que les élections se sont bien passées, les Nigériens se sont mobilisés pour porter leur choix, là où, en tout cas, les élections ont eu lieu. Mais malheureusement, c'est la compilation de résultats et l'annonce de ceci par la CENI qui a été une mascarade, un forcing et une pièce théâtrale, tout simplement. Sinon, pour se rappeler, les membres de CENI ont chacun prêté serment sur le livre saint de son choix, de sa confession. Et je me rappelle bien le 1 de point qu'ils ont, en tout cas, qui constitue le serment, c'est de ne jamais trahir ou travestir les légitimes attentes du peuple nigérien en matière électorale. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les membres de la CENI et en tête le président de la CENI a trahi et a traversé les légitimes.
Oui, vous dites que vous accusez, hein, et c'est dommage qu'on ne puisse pas entendre M. Waziri, que nous essayons toujours de joindre.
C'est une réalité, mais ce que nous disons,
oui, mais la commission électorale a bien dit qu'il s'agit des résultats provisoires qui restent à confirmer ou non par la Cour constitutionnelle. Pourquoi ne pas attendre?
Nous sommes en Europe et je n'ai jamais vu, j'ai été membre du bureau électoral ici en Europe et au Niger, j'ai dirigé et je suis arrivé à diriger un bureau de vote à des élections passées, mais on n'a jamais vu une commission électorale et déclarer un résultat de vote qui n'aura pas été signé par les deux délégués ou par les délégués qui étaient dans ce bureau de vote. Les PV non signés ne sont tout simplement pas déclarés et comptabilisés.
Justement, je disais que tout cela va être porté dans le recours annoncé par M. Ousmane devant la Cour constitutionnelle qui va les examiner.
Oui, mais le premier tour a été la même chose. Des preuves ont été données où on a vu des délégués qui ont été menacés avec armes à feu pour signer des PV avec des photos. Professeur tout à l'heure l'a souligné, où aujourd'hui, avec la technologie, facilement, des électeurs ou des témoins peuvent faire des images et des vidéos ont été apportées, mais la Cour constitutionnelle a validé quand même le résultat de certains bureaux de vote qui ont été, en tout cas, dénoncés.
Merci beaucoup. On va marquer une pause. On se retrouve dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelle solution possible face à la crise post-électorale au Niger avec quatre invités, professeur Boubé Namaïwa, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar au Sénégal, Kabirou Oumarou, membre du parti MPN, il est à Bruxelles et en ligne avec nous de Paris ici donc Yacouba Soumaïla, secrétaire général de la diaspora du Modène, Faloumana de Amadou et nous essayons toujours d'entrer en contact avec Idrissa Waziri, porte-parole de Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir vainqueur de la présidentielle au Niger selon les résultats provisoires de la commission électorale. En attendant de l'avoir, nous allons poursuivre avec les autres invités et on vous redonne la parole, Monsieur Yacouba Soumaïla. La contestation est donc là, elle a conduit à des manifestations de colère un peu partout dans le pays, deux morts. Et près de 500 personnes arrêtées, dont Amadou. Où se trouve-t-il en ce moment précisément?
Donc bon, nous déplorons ce qui s'est passé après la proclamation de ces résultats. Je pense que c'est une situation évitable si chacun de partis avait bien joué sa partition. Donc là, je pense que toute la responsabilité doit être portée par la CENI qui s'est précipitée à proclamer des résultats non validés par
Et si on revenait à la question, s'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'il est toujours en garde à vue à Niamey?
Oui, monsieur Amamadou est toujours en garde à vue. Donc c'est lui-même qui s'est rendu de lui-même parce que la police a mis deux jours à le chercher. Donc il ne sait pas pourquoi il a été recherché. Quand il a eu l'info que la police le cherchait, il s'est rendu de lui-même à la police judiciaire.
Mais le ministre de l'Intérieur l'accuse d'avoir organisé, d'être à l'origine de toutes ces violences, et met notamment en cause les propos qu'il a tenus en août dernier, avant l'élection, comme quoi il avait déclaré en substance que il rendrait le pays ingérable si sa candidature n'était pas retenue, et ça avait été le cas.
Mais madame, sa candidature n'a pas été retenue. Est-ce que vous avez vu un acte que M. Amamadou a posé ou ses partisans ont posé? Donc cela prouve que Amamadou est un homme de paix. Donc vous savez bien que la capitale où pratiquement 80% de votants sont de son parti, mais pourtant il les a appelés à l'apaisement. Donc il n'y avait eu aucune manifestation. Donc si M. Amamadou était quelqu'un qu'on qualifiait d'être à l'origine de ces actes-là, il allait donner des consignes pendant que sa candidature a été rejetée. Mais rien, aucune personne n'est sortie dans ce rue. Donc je suis vraiment désolé que c'est aujourd'hui qu'on l'accuse d'être derrière ces événements malheureux.
Monsieur Namaïwa, la crise est donc là. Je parlais des morts. On vient de parler d'arrestations, dont celle de Amadou. Aujourd'hui, l'opposition dit qu'elle va introduire un recours devant la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre tranquillement que ce recours soit introduit, apporter les preuves de ce que les fraudes ont été observées pendant ce scrutin et que ce sont elles peut-être qui ont conduit à la victoire de M. Bazoum?
Madame, merci beaucoup. Le problème avec cette Cour constitutionnelle, c'est que dès au départ, l'opposition ne reconnaissait pas cette Cour dans sa composition actuelle. Il a manqué de sagesse au niveau de la classe politique nigérienne pour pouvoir s'asseoir et trouver, je vais dire, une Cour consensuelle. Autrement dit, il y a crise de confiance au niveau de cette Cour.
Mais c'est bien sur devant cette Cour que le candidat de l'opposition, M. Ousmane, devrait présenter ses recours. Lui-même, il a dit qu'il va saisir ses cours constitutionnelles.
Madame, permettez-moi de terminer. Nous avons dit au premier tour, malgré tous les recours introduits, cette Cour n'a absolument rien changé. Alors que, vous le savez très bien, une Cour constitutionnelle, c'est un juge pour la paix sociale. Autrement dit, lorsqu'il y a des contestations et que ces contestations sont documentées, il fallait simplement prendre en compte et annuler un certain nombre de bureaux de vote afin que la quiétude sociale puisse arriver. Je vous dis, M. Maman Ousmane, le président de RDR Tanji, est un légaliste. Je dis bien c'est un légaliste. On ne le connaît pas. Ce n'est pas un va-t-en-guerre. Je vous donne deux pistes. La première, c'est qu'en 1995, il a organisé des élections législatives anticipées. Tout président de la République qu'il soit, il les a perdues. Il a accepté le verdict alors que ses partisans étaient en train de lui demander de contester ses résultats. Il a accepté, ce qui l'a conduit à une cohabitation. Monsieur Maman Ousmane a perdu son parti politique sur une base, je voulais dire simplement, de règlement de compte. Il s'est plié à la volonté des juges qui ont décidé qu'il ne doit plus parler au nom de ce parti. Monsieur Maman Ousmane est un homme très sage. Si vous le voyez aujourd'hui, contester ses résultats, c'est que quelque part, il doit avoir raison.
Merci.
Maintenant, introduire au niveau de la Cour, je vous dis, madame, c'est que c'est peine perdue.
Vous l'avez déjà dit, monsieur Namaywa. Merci beaucoup. C'est peine perdue, mais je vous rappelais que le président Maman Ousmane a clairement dit qu'il va introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle, même si vous dites que vous n'avez pas confiance en cette Cour. C'est bien cela, monsieur Kabirou Oumarou. Où en est-on justement avec cette saisine de la Cour annoncée par le candidat déclaré perdant?
Le président Mohamed Ousmane est un légaliste, comme l'a dit. C'est quelqu'un qui sait respecter les lois et règlements de notre pays et des pays aussi étrangers. Il a été responsable, premier président démocratiquement élu, président de l'Assemblée nationale pendant plus de 10 ans, président de plusieurs autres institutions parlementaires africaines, européennes et internationales. Et c'est au respect, au regard du respect qu'il porte sur ses enseignements juridiques qu'il accepte vraiment de faire ce processus. Mais encore, il faut que le pouvoir public le laisse travailler. Parce que vous vous rappelez, au niveau de son point de presse, il a rappelé qu'au moment où il prépare à récolter, nous sommes dans un pays de 1 287 000 km², où les délégués sont répartis dans plusieurs zones, avec plusieurs kilomètres, les voies, les routes ne sont pas toujours faciles d'accès, ainsi de suite. Au moment donc, dis-je, où il est en train de récolter ses données, ses preuves, parce que pour s'adresser à une cour, il faut des preuves, il ne faut pas seulement des déclarations, et je vous l'ai dit que les preuves, on en a, et en train de récolter ses preuves, eh bien, donc... ces délégués qu'on est en train de mettre en prison aujourd'hui, il y a plus de 470 personnes qui ont été arrêtées.
Donc vous voulez dire qu'avec ces arrestations en cours, M. Maman Ousmane n'est pas en mesure de réunir les preuves nécessaires pour introduire devant la Cour constitutionnelle?
On n'y est pas, mais il y a un risque de ne pas lui permettre d'avoir le temps nécessaire parce qu'il y a un délai pour ce dépôt-là. Et je pense que le pouvoir public joue avec cela, et c'est pourquoi nous alertons l'opinion nationale et internationale pour qu'elle puisse en tout cas avoir des yeux, un regard sur la situation du Niger.
Merci.
Afin que vraiment qu'ils puissent prendre toutes leurs responsabilités.
Pour prévenir une situation plus dramatique. Merci beaucoup, Monsieur Kabirou Oumarou. On me fait signe que Monsieur Idrissa Waziri, porte-parole de Mohamed Bazoum, est en ligne. Et j'espère vivement que cette fois, c'est la bonne. Nous avons d'ailleurs évité d'inviter les participants de Niamey parce que les lignes sont difficiles. Et malheureusement, même ici en France, c'est pas facile. Monsieur Waziri, vous m'entendez? Allô, Monsieur Waziri? on n'entend pas M. Waziri qui est pourtant, me semble-t-il, en ligne. Et c'est très dommage parce que finalement, on n'arrive pas à entendre les réponses du camp du pouvoir hein, sur les accusations qui sont faites par les autres participants. Et c'est bien dommage. Mais on va continuer à essayer. Et je rappelle que nous parlons ce soir de la crise post-électorale au Niger. Je vais revenir à vous, monsieur Yacouba Soumaïla. La crise est donc là. Vous dites que oui, vous tentez de saisir la Cour constitutionnelle. On empêche monsieur Ousmane de préparer les documents en arrêtant certains de ses partisans. Finalement, que vous reste-t-il aujourd'hui si vous n'arrivez pas à introduire ces recours devant la Cour constitutionnelle?
Oui, madame, pour juste compléter ce que Camille disait tout à l'heure, donc je vous rappelle que il y a certains de ces partisans, même des représentants de bureaux de vote qui ont des preuves à apporter pour pouvoir faire les dépôts là à la Cour constitutionnelle, qui sont arrêtés. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une volonté manifeste d'empêcher le candidat Ousmane d'être dans ce droit. Et donc moi je pense que nous allons continuer. Nous allons continuer parce que nous avons pas mal de preuves à déposer. Donc Ousmane va faire ses...
Mais il y a le délai qui arrive, qui approche, au-delà duquel vous ne pouvez plus introduire ce recours.
Ah mais dans ce cas, l'opinion internationale et nationale donc verront clairement la volonté de ce pouvoir-là à confisquer leur pouvoir. Parce que je vous dis clairement, je rends même hommage au peuple nigérien parce que la volonté, la majorité des Nigériens qui voulaient ces changements-là se sont mobilisés le jour des élections pour porter leur choix sur le candidat Maman Ousmane. Ils le savent. Donc ils savent que si ils confisquent ce pouvoir-là du peuple, je vois mal comment M. Bazoum peut gouverner ce pays.
Bon, monsieur professeur Namaïwa, je vais encore peut-être qu'on dise un mot très rapidement sur cette Cour constitutionnelle. Vous dites que vous n'arrivez pas à introduire les recours. Mais finalement, à quoi servirait d'introduire des recours devant une Cour dont vous préparez forcément à en contester les décisions?
Madame, je n'ai pas dit, madame, que nous n'arrivons pas à introduire des recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Non, pardon, c'était la question pour M. Oumarou. Pardon, pas M. Nawaï. C'est bien M. Kabirou Oumarou. Allez-y, voilà, M. Oumarou. M. Oumarou? Allô, M. Oumarou?
S'il vous plaît.
Oui, M. Oumarou, vous avez entendu ma question?
Vous pouvez la rappeler, s'il
vous plaît? Oui, vous dites que, vous avez dit tout à l'heure qu'il était difficile pour l'instant de réunir les éléments pour saisir la Cour constitutionnelle. En même temps, vous dites que vous n'avez pas confiance en la Cour constitutionnelle. Pourquoi donc introduire des recours devant une institution dont vous contesterez forcément les décisions par la suite?
Madame, Nadal dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ici, la Cour constitutionnelle, on sait qu'à travers... et ses actes dans le passé, et c'est une cour qui n'est pas impartiale, même le candidat de pouvoir...
Elle n'est pas impartiale, mais du moment où vous la saisissez, vous lui accordez le bénéfice du doute, donc vous vous trouvez forcément dans une position où, quelles que soient les décisions de cette cour, vous allez vous soumettre à sa décision.
Ce qui prouve, madame, que nous sommes des partis politiques démocratiques, ce qui prouve que nous sommes des partis politiques qui aimons la paix dans ce pays. Nous voudrions que la paix règne dans ce pays, une paix qui a quitté, en tout cas, le Niger depuis plus de 10 ans. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de participer aux élections et nous participons aussi à tout le processus électoral. Le processus électoral nous donne droit à ce que nous puissions déposer un recours. Nous l'avons démontré, nous l'avons fait avec des preuves au premier tour. Nous n'avons pas trouvé gain de cause. Ça a été même oublié, ça a été ignoré.
Oui, mais si vous arrivez à introduire le recours, est-ce que vous accepterez la décision de cette Cour constitutionnelle?
Une décision peut être appréciée, elle peut être appréciée au vu, en tout cas, de preuves qui seront déposées. Et je pense que ici, au niveau de ces élections qui a eu lieu, comme je dis que c'est cette mascarade qui a eu lieu au niveau de la CENI, et c'est aux yeux de tout le monde.
Vous ne répondez pas à ma question, monsieur Oumarou, qui est très claire et qui est très simple. Oui. On va marquer une pause et on vous retrouve dans quelques instants.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Votre émission de ce soir est consacrée à la crise post-électorale au Niger avec nos invités Yacouba Soumaïla du Lumana, de Lumana Fa Africa, de l'opposant Amadou Boubé Namaywa, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Kabirou Oumarou, membre du parti MPN à Bruxelles, et Idrissa Waziri, porte-parole de Mohamed Bazoum, que nous n'avons pas hélas entendu depuis le début de cette émission pour des difficultés de communication. Et nous allons poursuivre avec vous, monsieur Soumaïla, en deux mots, hein, et puis on vous laissera vous exprimer sur la piste de solution aujourd'hui. Comment analysez-vous en quelques mots les félicitations adressées par certains chefs d'État à monsieur Bazoum, alors qu'on attend la confirmation ou non de son élection par la Cour constitutionnelle?
Mais, madame, quand vous faites la liste de personnalités qui ont félicité M. Bazoum, vous avez en tête M. Ouattara, donc vous savez dans quelles conditions il s'est imposé à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous avez
mais il n'est pas le seul, il y a le Tchadien aussi qui n'est pas encore élu.
On est dans une ère démocratique, le Tchadien qui a 30 ans de pouvoir. Donc, madame, je pense que ce n'est pas de modèle qu'il faut s'en féliciter.
Maintenant, comment sortir de cette crise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous serez, par exemple, prêt à en discuter avec la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, la France? Nous avons perdu M. Yacouba Soumaïla, qui est en ligne de Paris. Et pourtant, M. Kabirou Oumarou?
Oui, non.
Oui, dites-nous, est-ce que pour vous, c'est quoi la solution aujourd'hui?
La solution, c'est que nous allons poursuivre le processus comme nous l'avons annoncé. Nous allons déposer le recours, conformément en tout cas au code électoral à la Cour constitutionnelle, mais nous n'accepterons pas de résultats dont les troubles sont évidents, de résultats de peser non signés par les délégués, de résultats...
Donc vous partez à la Cour constitutionnelle en disant à la Cour constitutionnelle, débrouillez-vous pour nous donner raison, sinon nous n'accepterions pas vos décisions.
Nous ne cherchons pas, la Cour sait qu'elle peut bel et bien annuler les résultats et reprendre les élections, tout comme elle peut demander le recomptage de voix.
Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous comptez demander exactement à la Cour? L'annulation des résultats provisoires, la reprise du scrutin, le recomptage dans les localités où les résultats sont contestés?
Dans les records, tout à fait. Et parce que nous avons donné en tout cas des preuves évidentes par rapport, quand je prends l'exemple du Timia, quand je prends l'exemple des bureaux d'abaissement dans la région d'Agdez. C'est des localités où il n'y a pas eu tellement de nombre de votes. Madame, nous ne comprenons pas cette situation. Voilà un régime qui a fait 10 ans et qui a fait de grandes réalisations physiques dans des grandes villes. Même pendant les élections, le président a violé, le président de la République a violé l'article 91 du code électoral pour aller porter main forte à son candidat dans les régions où il voit évident. Évidemment, ça faiblesse.
Merci.
Dans ces régions, il n'a pas... Excusez-moi, je vais...
Non, M. Oumarou, ce n'est pas le débat. Nous ne parlons plus de campagne. Nous sommes en train... À cette phase-ci, nous cherchons la solution. C'est ça qui nous intéresse à cette phase-ci. Merci beaucoup.
C'est dans les localités, les zones nomades.
Professeur Boubé Namaywa, votre solution aujourd'hui pour sortir de cette situation de blocage avec les arrestations, morts d'hommes, comment éviter que la situation s'enlise et peut-être aille plus loin?
Très bonne question, madame, et j'espère que vous allez m'écouter correctement parce que moi, je suis dans la recherche de solutions. Mon pays est dans une situation extrêmement difficile, ce que nous n'avons jamais connu. Il y a deux solutions, madame. La première solution, c'est le magistrat suprême de ce pays-là. Il s'est tué jusqu'ici. Il a observé la situation et il sait ce qui s'est passé.
Le président Issoufou ?
Madame, oui, madame. Oui, j'ai dit le magistrat suprême du pays, c'est le président Issoufou. Il a promis de laisser un pays dans la paix et dans la stabilité. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit. C'est aujourd'hui l'occasion pour lui de laisser un pays stable et un pays dans la quiétude. La deuxième chose, madame...
Attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, madame? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Un peu de plus de détails.
Qu'il soit l'arbitre suprême, il a vu, il a toutes les informations sur ce qui s'est passé lors de ce scrutin, madame.
Donc vous voulez qu'il dise que Mohamed Bazoum n'a pas gagné et effectivement la victoire revient à M. Ousmane?
Ne me faites jamais, madame, s'il vous plaît, madame, ne me faites jamais dire ce que je n'ai pas dit.
Je vous ai demandé, pouvez-vous donner un peu plus de détails sur ce que vous attendez précisément du président Issoufou pour sortir de cette crise?
Est-ce qu'on peut s'écouter, madame?
Mais je ne
Il y a eu des irrégularités. Et ces irrégularités, tout le monde le sait. Et donc, le président de la République, étant entendu qu'il y a une crise de confiance entre l'opposition et la Cour constitutionnelle, le président de la République, en tant que chef suprême de la justice, doit pouvoir leur demander de juger en âme et conscience. Premièrement. Deuxièmement, madame, la communauté internationale, c'est aujourd'hui ou jamais. Elle doit se poser en, je dirais, médiatrice, c'est-à-dire qu'elle doit venir aujourd'hui au secours du Niger qui est entré dans une situation extrêmement difficile afin que les acteurs puissent entendre. Nous connaissons cela avec les palabres, madame. Donc moi, je cherche cette solution-là. Un, le président de la République a un rôle à jouer. Deux, la communauté internationale a un rôle à jouer plutôt que de prendre position pour ou contre tel ou tel candidat.
Merci.
Il s'agit de sauver la vie des Nigériens, il s'agit de sauver la stabilité de ce pays.
Merci. Monsieur Soumaïla, vous endossez les propositions que vient de faire le professeur Boubé Namaïwa, que le président s'exprime et que la communauté internationale vienne au chevet de la crise post-électorale nigérienne. Et quelle communauté internationale?
Moi, je ne vais pas aller jusque-là. Ce que je vous ai dit, bon, je t'ai coupé tout à l'heure. Moi, je voulais tout simplement que la Cour constitutionnelle prenne sa responsabilité. Donc, il faut que cette Cour-là, si la Cour veut sauver ces pays-là, il faut que la Cour soit juste en acceptant le recours, en recevant déjà le recours que le candidat Ousmane va porter. Et moi, je vous assure, madame, si la Cour reste juste et impartiale avec le recours que notre candidat va déposer, Ousmane sera le président du Niger. Donc, tout ce que la Cour doit faire, c'est de respecter la volonté du peuple. Le peuple s'est exprimé majoritairement pour Ousmane. Donc, s'ils veulent de la stabilité pour ces pays-là, c'est à la Cour de jouer sa partition.
Donc, pour vous, tout repose aux mains de la Cour constitutionnelle. La communauté internationale, comme le disait le professeur Namaïwa, n'a aucun rôle à jouer. Je parlais de la CEDEAO ou l'Organisation continentale, l'Union africaine, l'ONU ou même la France.
Pas, madame, je ne compte pas sur la communauté internationale. Vous le savez bien, la CEDEAO, c'est un club des amis. Donc, ils ne vont jamais laisser tomber leur ami Issoufou Mahamadou. Quant à la communauté internationale, la France, je ne compte pas sur la France. Vous avez vu, entre les deux tours, M. Bazoum s'est déplacé en France pour rejoindre le président de la République ici. Donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire.
Merci.
Entre deux tours, tu dois rester à côté du peuple que tu veux représenter. Donc son déplacement en France pour rejoindre son mentor...
Rien ne l'oblige à rester au Niger entre les deux tours. Il y a aussi des Nigériens ici en France.
Nous, c'est ça.
À ma connaissance, il n'a pas rencontré les autorités françaises, tout au moins pas officiellement.
Pas officiellement, vous le dites.
Oui, je veux dire, à ma connaissance, quand nous avons regardé, moi, je ne sais pas s'il a rencontré, si dans l'agenda des officiels français, il y avait des entretiens avec M. Bazoum.
Non, mais dans les agendas, vous pensez que ce genre de rencontre, M. Macron peut prendre le...
C'est vous qui êtes un homme politique, moi, j'en sais rien, je ne suis que journaliste. Allô? Bon, il me semble qu'on l'a à nouveau perdu. On va conclure avec vous, monsieur Oumarou. Certains parlent peut-être de l'option d'un gouvernement d'union nationale, monsieur Oumarou. Est-ce que vous êtes demandeur?
On n'est pas à ce stade, madame. D'abord, on finit le processus électoral. Et je voudrais ajouter par rapport aux solutions à l'appel de la communauté internationale, c'est pourquoi ça fait 3 fois ce vendredi, nous partons devant la Commission européenne pour attirer l'attention de la Commission et au-delà, attirer l'attention du peuple européen. Voilà des élections qui ont été financées.
Est-ce que vous ne devez pas déjà vous entendre au niveau de l'opposition sur la stratégie? Monsieur Souma, il vient de dire qu'ils ne veulent pas de la communauté internationale, ni de la CEDEAO qui est un club pour soutenir le président Issoufou.
Non, il n'a pas dit qu'il ne veut pas de la communauté internationale. Il dit qu'il n'a pas confiance au niveau de la sous-région et de la France. Mais moi, j'appelle la communauté européenne à travers l'Union européenne qui finance, qui a financé plus de 80% du budget des élections au Niger. C'est l'argent du peuple européen. Pour que le peuple européen puisse entendre que voilà, c'est leur argent qui a été servi pour essayer de faire du braquage et de vol en Afrique et puis créer des désordres que eux, ils vont être mêlés plus tard. Et donc, attention aux politiques qui acceptent le budget pour le soutien de la dictature. Et c'est quelque chose de très important par rapport à cela.
Merci.
Parce que ces élections, depuis 5 ans, nous attirons l'attention de cette communauté internationale sur son organisation.
Merci
c'est un
beaucoup.
Plan qui a été préparé depuis 5 ans.
Merci.
Pour pouvoir voler le résultat du peuple, pour pouvoir voler la volonté du peuple.
Merci Kabirou Oumarou du parti MPN, Aboubé Mnawaywa, enseignant-chercheur, Yakuba Soumaïla, secrétaire général du Modem Lumanafa.